En ce moment, à la médiathèque de Toulouse, vous pouvez voir une exposition sur la typographie traditionnelle, celle qui est analogique au caractère amovible de plomb recyclable et aux lettres à 7, marque déposée. Au grand désespoir de ceux qui ne pourront pas s'y rendre avant fin mars, l'événement ne sera pas reproduite ou réédité. Néanmoins, nous avons sauté deux pages sur l'occasion pour faire parler les fondeurs modernes de Fonte, Police et autres groupes de glyphes amusants. Nous avons donc le bonheur d'enregistrer au sein de l'agence Bakelite, qui a entre autres réalisé quelques œuvres justement pour la dite exposition, mais qui est aussi une agence de communication qui réalise entre autres des polices sur commande. Nous interviewons donc Benoît Sicre, graphiste scénographe, et Émile Sacré, directeur artistique.
CPU, carré et petit utile.
Alors depuis tout à l'heure, parce qu'il y en a qui ont râlé sur le document de travail, parce que je confonds police, fonte et typographie, et typo, pardon, tout court, qui peut m'expliquer du coup quelle est la différence entre les trois ?
Déjà, si on prend la typographie, ça va être...
Benoît Sicre.
Oui, pardon. C'est moi.
Voilà. Il faut que je t'introduise.
La typographie, c'est la création des caractères en vue de la reproduction. Donc, c'est forcément issu de la calligraphie à la base. Donc, la création de caractères, donc de partir des 26 signes clos et autres, et de passer après à des mots et à des pensées. Et donc, c'est l'aspect mécanique. L'aspect de reproduction qu'on va avoir dans la typographie. Après, pour faire vraiment la différence entre police et fonte, là, moi, je ne suis pas assez calé pour pouvoir vous répondre. Très sincèrement.
C'est pas les mêmes lettres. Déjà.
Émile Sacré, oui.
Déjà, c'est pas les mêmes lettres.
Dans le mot voilà. Oui, c'est vrai, ça s'écrit pas pareil déjà.
D'accord, oui, forcément.
C'est un argument.
Oui, ouais. Oui, c'est
fonte,
prototype.
Fonte, il y a plus l'idée de matière, certainement, en faisant référence au plomb. Mmh. Je pense que c'est un terme qui a été utilisé ancestralement.
Probablement, je ne sais pas. Non. Vraiment,
puis c'est un anglicisme aussi, fonte, ouais. F-O-N-T de l'anglais.
Ouais. Ouais.
Bon, alors d'après ce que je sais, en fait, une police est une collection de fontes. Parce que la fonte, c'est la taille de caractère, voilà. La graisse et tout. Ouais. Non mais j'y crois pas quoi. Ouais. Vous avez fait quoi ? Vous avez fait Beaux-Arts, c'est ça ? L'école est pas loin ?
Ah oui, pour ma part, oui. Ouais.
Donc
après, je vais pouvoir développer sur plein de trucs, mais voilà.
Alors justement, en fait, quel est votre parcours ? Quel est votre parcours avant de devenir justement dans votre rôle en tant que designer ?
Très différent, du coup.
Très différent, ouais. Et après, pour parler un petit peu de Bakelite et de ce que c'est la réunion de 6 travailleurs indépendants, donc avec des compétences complémentaires dans le domaine de la communication visuelle et de l'aménagement d'espace. On va faire vite et sans reprendre ma respiration.
Et on a une baseline qui est un peu Bakelite, design global et solide.
Ouais. D'accord. D'un autre côté, vous produisez, c'est de la communication globale. Hein. Il y a de la vidéo, il y a de la peinture, il y a un peu de tout. Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes lancé dans la typographie, réellement, dans les canons du genre ? Vas-y, bon. Que je te sors le TTF.
On l'utilise.
Bon, allez, une type 3.
Ouais, on l'utilise en permanence.
Quotidiennement.
Alors voilà, que ce soit... effectivement pour le travail d'édition, puisqu'on travaille l'édition à Bakelite, donc on en utilise beaucoup, que ce soit la création d'identité visuelle, donc on l'utilise pareil au quotidien. Et après, dans le travail d'aménagement d'espace, on inclut très souvent le mot, la phrase et la pensée, et réalisé de manière manuelle avec le savoir-faire. Donc c'est des choses différentes, mais après au quotidien, effectivement, on la travaille et on la veut omniprésente dans notre travail.
Alors qui commande de nos jours une police et qui ne va pas se contenter en fait d'une police qu'il aura piochée gratuitement sur dafont.com ?
Pour ne pas te mentir, de la création de typo, on n'en fait pas.
D'accord.
On en crée dans un certain cadre qui est de lorsqu'on veut sortir une typographie de la pure et simple lettre pour jouer avec les formes, le vocabulaire de forme, pour créer de l'image grâce à la typo.
Donc c'est plus de la titraille en fait que que de la police.
Ça peut être du motif, ça peut être avoir plusieurs typologies. Et après sinon on fait de vrais travaux, de vrais projets d'identité visuelle où là on utilise forcément des typos déjà dessinés pour pour coller plus ou moins au sens que l'on veut donner à ce qu'on dessine, ce qu'on écrit.
Après, voilà, c'est par exemple, si on travaille sur un logo, vraiment le processus autour de la conception d'une identité visuelle, il y a forcément une part dans la charte graphique qu'on rend, c'est-à-dire le document qui va donner les règles d'utilisation du logo.
Des préconisations.
Voilà, des préconisations, et après, forcément, un chapitre dédié à la typographie, et après, on conseille. Donc, on va choisir pour le client, même voir avec lui quel typo, au singulier comme au pluriel, quel typo on va utiliser, que le client va utiliser.
Mais c'est un peu faux ce que je t'ai dit. Enfin, on en crée forcément, et notamment beaucoup dans des projets interactifs ou des projets de motion, de graphisme animé. Là, ça nous arrive souvent quand même de designer nos propres caractères pour avoir plus de modularité pour faire vivre ces graphismes.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé comme ça, par curiosité, c'est une situation que j'ai connue plus d'une fois, assez rigolote, un client qui arrive avec je veux telle police pour la charte de mon entreprise, etc., et se rendre compte que, ah mince, il manque les accents.
Oui.
Elle a redessiné et a finalement complété un travail d'un autre.
Oui.
C'est une typo bâclée.
Oui.
Pas prévu pour
nos
pays.
Qui est l'auteur.
Ouais. Mais après, oui, c'est vraiment dans le travail typographique, on en parlait, quoi, sur l'identité visuelle ou alors sur le jeu de titraille, où là, il peut vraiment y avoir de la création. Sinon, après, voilà, sur le texte, on va dire, utilisé, que ce soit sur le web ou sur le print, ce qu'on appelle texte de labeur. Bon, bah, là, il y a déjà des polices de caractère qui sont faites pour et qui sont exceptionnelles et qu'il ne faut pas y déroger, quoi, tout simplement.
Oui, parce qu'on explique qu'il y a la police de labeur, en fait, pour le print, et la police de la joie pour le web, pour le mettre sur les sites porno. Quand on crée, en fait, une police, quelles sont, en fait, vos inspirations en général ? Est-ce que c'est direct, c'est une lettre ? Ou des fois, c'est une forme, c'est une courbure ?
Oui, c'est avant tout ça.
C'est, par exemple, les arcades d'un bar.
Tout à fait.
Il y a abstraction et figuration.
Ouais. Non, mais après, c'est comme sur le travail de recherche en conception d'identité visuelle. C'est qu'on part jamais et on n'attaque pas un outil. On part et on réfléchit. Donc, en réfléchissant, effectivement, il y a des inspirations, il y a des croisées. Ce qui est intéressant aussi dans nos domaines, c'est d'avoir plusieurs lectures dans ce qu'on réalise pour un client. Donc, voilà, c'est vraiment des inspirations. Donc, on ne le voit pas en tant que caractère, en tant que lettre. On travaille en tant que forme et contre-forme.
C'est ça.
Ouais, à ce moment-là. Ouais.
Et des fois, il y a vraiment une liaison directe, en fait, entre la police et un élément que vous aimeriez inclure dans une création.
La police ou la typographie ?
La typographie. Ouais.
Mais après, oui. Ouais, oui.
Putain,
oui.
Les bœufs carottes, voilà, ça y est.
Et c'est primordial, vraiment primordial pour nous, quoi. C'est pour ça que le slogan, quoi, l'accroche, on va dire, de Back Elite et design global et solide, c'est qu'on essaye de faire en sorte que... Enfin, de connaître un maximum le sujet pour lequel on nous appelle, et après d'essayer de lier l'ensemble des productions dans une logique. Alors, une logique pour appuyer ou une logique pour compléter, pour jouer de prisme ou jouer de microscope. Ouais, c'est vraiment ce jeu-là. Donc, c'est vraiment dans la notion globale d'essayer de faire en sorte que tout fasse sens, puisque nous, nos métiers, c'est de raconter des histoires. Donc, pour qu'une histoire soit bonne, il faut qu'elle soit bien ficelée.
D'accord.
Et le sens découle vraiment directement dans la création d'une fonte, d'une
typo. Oui. Et puis déjà, si on prend la polysémie du mot caractère, là, tout est dit, quoi. C'est-à-dire dans le choix d'une police, on va déjà induire...
Ce qu'elle va connoter. Ouais.
Voilà, quelque chose. Et ce qui induit, c'est quand on le prend comme signe et comme forme.
Donc du coup, est-ce que, pour aller plus loin sur l'étymologie, des fois, est-ce qu'il n'y a pas une émotion que vous souhaitez faire passer
toujours
sur certaines polices où il y a une obligation justement d'essayer d'être neutre?
Non, c'est ce qui va créer une atmosphère particulière et singulière au final pour chaque projet.
Ouais. Et puis voilà, on parle d'identité. Si on parle de caractère, on parle aussi d'identité quand on dit identité visuelle. Donc ça y participe. Donc sur l'identité visuelle ou sur le jeu de titraille, quand il y a de la création typographique, c'est induit.
Et souvent,
après, j'y reviens, mes textes de labeur, voilà, on va être. Il y a des choix à faire, hein. Il y a un travail là-dessus et la typographie est faite pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit lisible en fonction du support.
Et souvent,
mais là, c'est plus efficace, c'est moins, on va dire, créatif, on va dire, c'est plus technique à ce moment-là pour le confort.
Et souvent, avec les clients, on leur dit, je te prends la main et ne t'en fais pas, on va vraiment faire un travail sur l'identité visuelle qui questionne forcément la typographie, quoi.
Ouais.
Et puis on les accompagne, quoi, les clients.
D'accord. Quand vous créez une police, ça se passe comment ? C'est d'abord à l'analogique, au crayon et papier
toujours,
et gomme
toujours,
ou...
toujours.
Toujours.
Pas direct du vectoriel ou un truc comme ça ?
Il faut, pour ceux qui le maîtrisent et dont c'est l'outil et que la création passe par là, oui. Sinon, et c'est très rare, il faut absolument l'éviter. On le voit régulièrement avec des stagiaires qu'on accueille ou d'autres collaborateurs. Ceux qui n'ont pas un crayon et un papier sous la main droite ou gauche, hein, en fonction de...
c'est corvée de café.
Voilà. Oui, là, t'es puni, quoi. Mmh. T'es puni parce que l'évidence vient du crayon et pas de la souris, quoi, très sincèrement.
D'accord. Ouais, ouais. Et à partir de là, une fois qu'elle est travaillée, ça se passe comment ? C'est scanné pour ensuite être vectorisé ?
Ouais,
ça passe dans photo,
ouais, ça passe dans toute,
sur un écran, en tout cas.
Toutes les moulinettes, quoi. Mais après, on passe assez rapidement sur le vectoriel.
Et sur les courbes de Bézier.
Et sur les courbes. Ah, passer sur les courbes de Bézier.
En 3 points ou 4 points. Ouais. et comment vous faites, en fait c'est-à-dire, il y a des lignes, il y a des hauteurs, il y a déjà des indications, par exemple, sur ce que vous appelez la largeur du fût, des trucs comme ça. Je vous rassure, on renverra les auditeurs sur les liens sur le site.
Pas de souci. Non, on va pas jusqu'à ces questionnements-là entre nous, quoi. C'est chaque membre de Bakelite connaît à peu près sa partie et après on communique assez bien, quoi. Donc là, il y a pas de, on n'a pas rentré dans ces caractères-là. Enfin, ouais, dans ces petits détails-là, quoi. Par contre, après, dès qu'on devient technique, c'est effectivement ce qu'on appelle l'approche, c'est-à-dire la distance entre les lettres, du fait qu'elles s'imbriquent bien, parce qu'il y a des différences. Après, ça va être au travail de ce qu'on appelle de grille aussi, avec l'interlignage, c'est comment ça s'enchaîne. Enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là.
Et quelle destination à cette typographie, justement, on parlait de texte de labeur, mais est-ce que c'est une typo vraiment plus adaptée titrage, voire même graphisme, il y a des banques de typos aussi qui fonctionnent avec des principes d'ornement aussi qu'on peut répéter. Mais la destination, c'est vraiment important, quoi. Le but de la création de ce caractère. Ouais.
Quels sont les logiciels, en fait, que vous utilisez et comment, en fait, vous visualisez vos textes en général ?
Suite Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign et compagnie. Et après, pour la création plus spécifique de typos, ça nous arrive de travailler avec FontLab, qui est principalement le soft adapté.
Qui est un outil qui a un certain prix, mais qui le vaut, en tout cas.
Oui.
Vraiment. D'un autre côté, est-ce que il y a une différence lors de la création d'une police entre ce qui va être utilisé, justement une police de print, donc de labeur, et une police que vous allez dessiner pour l'électronique, c'est-à-dire soit pour l'animation, soit pour le web ?
C'est chaque.
Il y a moins de barrières aujourd'hui.
Ouais,
ce problème-là, aussi. Il n'existe quasiment plus. Justement, tu parlais d'anti-aliasing, de finesse vraiment de l'affichage, la résolution, print et numérique maintenant, tu peux complètement faire
sur ces questionnements-là,
un truc transversal qui soit cohérent.
Ouais. Mais après, il s'agit de prendre en compte la façon dont on utilise le médium. C'est-à-dire, si on est sur du print, on n'y accorde pas la même chose si on est... Sur de l'écran, on ne le regarde pas aussi de la même manière. Donc, c'est plus la façon dont on aborde la typographie, et le temps qu'on y consacre et la façon dont c'est utilisé. Le choix
de la typo, à la limite, on s'en fout. C'est plus comment elle va être utilisée dans tous ces paramètres qu'elle propose. Le corps, pour faire simple. Mais après, voilà, la chasse, quel interlettrage, etc.
Solarus ?
Oui, vous parliez de différence entre print et digital. Les clients ont bien compris ça, il n'y a pas des clients qui vous demandent du digital en A4 ou des choses comme ça.
C'est toujours pareil, hein. On reçoit toujours des logos en JPEG de 24KO, quoi, pour une affiche. Hein. Ça ne changera absolument jamais. Ouais. Non.
On nous demande des GIFs aussi en ce moment.
Ah oui, mais c'est à la mode. Pour plomber les bandes passantes, maintenant qu'on a la 4G, on peut.
Sur Facebook, c'est la fête, quoi. Depuis quelques mois, il y a les GIFs.
Portiched, Sour Times, Nobody Loves Me. Oui, je sais, ça fait un peu vieux, ça fait 20 ans. Mais voilà, c'est aussi indémodable que la police Times New Roman.
Exactement. Non, parce qu'il y a effectivement beaucoup de polices qui ont été créées il y a très longtemps et qui sont, comme nous on l'apprécie ici, c'est-à-dire solides, qui traversent vraiment le temps et qui sont d'une efficacité redoutable et qui sont des outils de communication phénoménal.
Benoît Sicre, oui. C'est vrai que la Garamond, c'est pas quelque chose que l'on se rend compte en fait de l'âge qu'elle a. Ouais. Même les polices, par exemple, ben là, tout récemment, il y a eu une discussion assez édifiante aux États-Unis. La police en fait qui est utilisée sur les panneaux routiers date de 1923. Elle est relativement vieille. Il y en a une plus récente qui a été faite, mais ils sont en train de la décommissionner tout simplement parce qu'elle coûte trop cher à l'usage. L'une des polices les plus classiques qui soit, on a parlé tout à l'heure en antenne de la Futura Canal Plus Isée, mais qui date des années 1920, et la Helvetica date des années 40.
C'est ça, quoi.
Donc, qui reste une modernité incroyable. Ouais. Est-ce que justement, comme cela, il y a des modes qui reviennent, qui partent
On est beaucoup dans le rétro-moderne aussi, quoi. Mmh. Ce purisme.
Est-ce que des fois, il y a aussi la perversion, le remix des polices qui fait que ça fait une petite moderne? Est-ce à l'envers, comme dans Desigual, pour vomir sur le pattern?
C'est plus rare. Mais
après, c'est quand justement, on en parlait tout à l'heure, c'est quand la lettre ou le mot devient image, quoi. Donc voilà, il suffit des fois juste d'un twist, quoi, d'un jeu graphique sur une base typographique et ça marche. Parlez-moi de moi, il n'y a que moi qui m'intéresse, mais Bakelite vient de réaliser l'identité visuelle du phare à Tournefeuille.
Qui est une salle de concert pour ceux qui n'habitent pas à Toulouse. Voilà.
Exactement, Donc
Avec, c'est vrai, une imagerie qui se veut justement très révolutionnaire dans
l'aspect. Vous l'avez vu le logo
Du phare, pas le nouveau. Ouais.
Alors voilà.
Non, mais là, si tu nous le montres, ceux qui n'ont pas payé la redevance couleur vont être très tristes. Oui. On mettra le lien peut-être sur le site internet.
Carrément, on a fait un teaser aussi pour l'occasion.
Voilà. Mais spécifiquement, c'est là où l'identité visuelle est uniquement identité typographique. Et on a joué uniquement sur le reflet. En prenant une police classique, je crois que c'est une Helvetica, on est vraiment parti très... Non, Emile me dit non. Non, alors c'est pas une Helvetica.
Un peu plus technique.
Ouais. Mais c'est juste sur ce jeu-là. Donc tu parlais du S de Desigual à l'envers. Là, le phare, c'est juste sur le jeu de reflet pour créer un nouveau motif qui est typographique, mais du coup, qui ne se lit plus, quoi, mais qui fait quand même sens.
Le reflet génère un signe avec cette typographie.
Et typiquement, c'est typo blanche sur fond noir, et toute l'identité visuelle est basée là-dessus. Emile donc vient de réaliser le premier teaser pour le lancement.
C'est particulier, ce projet, c'est bien d'en parler, parce que ce teaser explique comment lire le logo. C'est pas juste un teaser de « on va faire la fête, venez au phare, ça rouvre ». C'est plus quelque chose de didactique au final qu'on a fait avec du sound design aussi derrière.
Donc enseigner à des punks à chiens qui vont écouter des Che Guevara en puissance qui se prennent pour des Rastafari, ce que c'est que la culture graphique.
Pourquoi pas
tant qu'on y est les modernistes des années 30 de Moscou. Mais c'est honteux. Pour en revenir sur l'usage des polices, est-ce que des fois vous revenez à ces grands classiques et vous dites à vos clients non, c'est quand même mieux celle-là, c'est mieux la Garamond qui date de François Ier, elle marche encore très très bien, la Times classique, ce genre de choses.
On n'impose rien, on essaie peut-être des fois de passer par des sentiers un peu de travers et proposer justement, comme je disais tout à l'heure, des évolutions de typographie connues et reconnues. Donc il y a toute une mouvance aussi avec les écoles d'art et les écoles où il y a de la création de typos, des étudiants qui diffusent en fait librement leur création de typos. Et là, on se retrouve dans des choses un peu plus intéressantes avec certes plein de problèmes d'approche et compagnie, parce que c'est dans un autre cadre, c'est pas des typographes, quoi. Mais c'est des éléments intéressants et pour le coup ultra modernes à utiliser.
Ça se voit vraiment du premier coup d'œil quand c'est une police qui est faite en amateur par rapport à quelqu'un qui en est à sa troisième, quatrième police commissionnée ?
Non, pas forcément. Et j'en reviens à les étudiants d'école d'art s'inspirent de codes et le transmettent à leur façon, et il y a forcément des problèmes. Il y a forcément des caractères qui manquent, des approches qui ne fonctionnent pas, des accents qui manquent. Voilà. Et c'est l'horreur parce qu'on aime cette typo et on ne peut pas l'utiliser.
D'accord. Sur justement les caractères qu'on oublie, qui ne sont pas faits, en dehors des lettres accentuées, qu'est-ce qui manque en général le symbole paragraphe.
L'esperluette.
Ouais, le « et », voilà.
De la ponctuation principalement, des accents.
Ouais, après ça dépend de qui l'utilise, hein, parce qu'après, chaque graphiste, on va dire, a ses gimmicks typographiques, donc va gérer la typographie à sa manière, quoi. Il va mettre de l'identité dans l'identité.
Ouais.
Donc après, si on va vraiment être dans le détail, ouais, ça se passe comme ça, quoi. Ouais, c'est,
Et on est content qu'on a des projets anglophones parce qu'il n'y a justement pas d'accent utilisé.
Ouais. Ça, attends, moi je me suis fait pour l'Université de Toulouse du chinois. Donc c'est très intéressant de faire la composition typographique.
Mais tu peux pas faire la relecture toi-même.
Non.
Surtout que le chinois, en fait, c'est à la différence des lettres telles qu'on connaît, des lettres latines, les sinogrammes sont vraiment... Il y a 5 types différents de traits, donc du coup, on pense différemment. On pense vraiment...
C'est comment retranscrire justement le trait du pinceau avec le chinois.
Ouais, mais j'ai essayé de le prendre en compte. Quoi. Après, là, je n'ai travaillé que pour le signe et la forme contre forme. Quoi. Donc j'ai essayé d'en faire quelque chose d'esthétique en oubliant complètement le sens, mais en ayant le sens par rapport à ce que j'avais en français.
Ouais, ça, c'est rigolo. T'as fait du copier-coller, quoi.
J'ai fait du copier-coller, ouais. Mais après, je me suis dit, ce paragraphe, il est joli, non, on peut l'ouvrir, pas l'ouvrir. Ça m'a permis d'avoir beaucoup de blanc, c'est très rigolo. Et la typo était Simsoon. Alors, c'était super.
Et il y a une autre langue, un autre type d'alphabet que vous aimeriez essayer de travailler
Le premier, quoi. Donc c'est l'arabe, quoi.
Ah non, pas moi.
Ah ouais.
Moi, c'est le cyrillique.
D'accord.
Ah ouais, le cyrillique plus franc, ouais.
C'est joli.
Non, mais moi, ce serait, c'est plus, ouais.
Ok. C'est l'arabe, ouais. Est-ce que, des fois... qu'est-ce que vous pensez des polices gratuites que l'on trouve? Donc, on a cité un site tout à l'heure lequel il y a beaucoup de repompages et de la bête décalque de
polices
payantes.
Il faut les fouiner comme un collectionneur de vinyle, quoi. Mm-hmm. En fait, moi j'en utilise beaucoup, perso.
Ouais. Après, il y a Skyrock et il y a Ediger, quoi. Après, on le voit comme on veut, mais après, tout le monde peut l'utiliser, donc tout le monde l'utilise de toute façon. Donc après,
Justement, moi,
très bonne punchline.
Ouais, pas de problème. Quoi. Franchement, c'est à chaque degré aussi. On peut aller loin, quoi, dans la typographie, mais au quotidien, quoi, on voit de la merde. Hein. Donc, nous, on n'aime pas faire du caca.
Et on fait avec.
Et sur les polices commissionnées, est-ce que vous les regardez, par exemple, les polices de la licence SIL, qui est au départ, en fait, une société biblique américaine et qui fait des polices internationales qui sont super belles, non ?
Jamais entendu parler.
Il y a une licence qui s'appelle la OSL, ou les polices qui sont commissionnées par exemple par les distributeurs, par les packagers de distribution Linux, comme la Ubuntu, la Libération, ce genre de choses.
Le problème de l'égalité de typo, tout ça.
C'est, non, en dehors, indépendamment justement sur ces polices elles-mêmes et ce qu'elles sont censées faire, oui.
Sinon, tu fais comme la Adopi, tu piques Bienvenue à France Télécom et tu te fais gauler pour piratage.
Ah oui, c'est vrai. Oh oui. Oh, celle-là. Oh, chapeau bas. Celle-là, pour l'avoir ressortie, elle était pas mal, ouais. Mais indépendamment de la légalité, justement, les polices qui sont commissionnées et qui sont libérées pour justement des raisons institutionnelles, est-ce que vous les regardez d'un œil curieux? Vous dites oui, elles sont plus ou moins bien faites?
Non, très sincèrement, je ne connais pas le sujet.
J'ai du mal à répondre.
Ouais.
À ça.
Connais pas.
La colle.
Ouais. D'accord, je le suis vraiment désolé. Est-ce que des fois, quand vous commencez à travailler sur un projet, et puis vous... Une soirée arrosée passe, une nuit bien endormie passe, et puis vous vous réveillez le matin, et puis vous revenez sur votre travail et vous dites « Non, finalement, cette police, elle est trop conventionnelle, elle est trop attendue sur l'usage que l'on fait. »
Alors, sur ces lendemains-là, franchement, c'est pas ça que je me pose. Quoi. Ouais. Ouais, l'avantage à Bakelite, c'est qu'on a plein de trucs à faire et on peut passer de suite en mode manuel. Quoi.
Mettre le cerveau.
Mais manuel, c'est avec le balai. Et donc là, ça te permet déjà de revenir à un niveau.
Tu fais un reset.
Ouais, tu fais du café, tu mets 2-3 musiques de merde, t'essayes de te lancer. Quoi.
Ça doit être terrible.
Si possible, du R&B des années 2000.
Donc après, un lendemain cuit, je vais pas me les poser, celle-là. Franchement, je vais passer bien à côté. Ouais.
D'accord, vous êtes bien plus à faute que moi sur la programmation musicale vis-à-vis de vos collègues.
Oui.
Et des fois, quand vous regardez le travail justement de chat graphique qui est conçu, ou même de magasin, vous dites finalement non, elle est trop attendue, ils auraient pu le faire différemment.
Oui. Oui, il y a des trucs, moi ça peut m'arriver de me dire pourquoi comme ça. Déjà pour essayer de comprendre, et après de me dire pour essayer que ce soit.
Ouais, mais si ça interroge, c'est-à-dire que d'une part, ça marche.
Ah oui, oui, toujours. Toujours, de toute façon, toujours.
D'accord.
Toujours.
Et des fois, quel est le, l'usage le plus décalé d'une police que vous avez vue ou qu'on vous a commandée ?
On a fait un truc bien fou, enfin bien fou, c'est bien sympa on va dire, c'est la typographie et l'adaptation sur Métronome,
ouais.
La salle de musique actuelle à Bordeaux Rouge. Mmh. On a travaillé, enfin le début de la commande c'était créer un élément typographique qui va être en défense dans une façade. Donc c'est pas une typo qui va être sur écran ni sur papier, c'est du
vraiment
volume.
Donc c'est du volume, c'est vraiment de l'enseigne. Ouais,
exactement.
Quoi, ouais. Oui. Et ouais. En fait toute l'identité visuelle, donc qui est cette typographie, donc une identité typographique, a été créée à partir de contraintes architecturales et de béton. C'est ça. Donc on va dire, l'approche elle était simple puisqu'on était sur du modulaire, puisqu'il fallait absolument éviter toute courbe déjà. Il y a vraiment sur l'orthonormé.
Le haut ne pouvait pas avoir de rond dans le haut parce que c'est des éléments en défense. Si l'élément central ne tient pas, il tombe.
Oui,
donc,
ouais.
Donc c'est la seule courbe.
On revient en fait aux limites physiques comme les lettres majuscules accentuées,
binaire,
par exemple, qu'on faisait pas.
Et du très binaire avec des traits, juste des formes géométriques ultra simples.
Ouais, ouais. Et revenir vraiment et c'est extrait de la matière. Donc c'était super intéressant de travailler là-dessus. Et là, voilà, on a fait une concession et ça a été compliqué à mettre en œuvre. C'est qu'on avait demandé à ce que le haut. Donc dans l'alphabet qu'on avait créé, parce qu'on a créé l'alphabet Métronome, finalement.
D'accord. C'est une création typo.
C'est une création typographique qui est sur une base modulaire, mais donc la seule exception de la courbe est effectivement le haut. Donc de Métronome qui est comme un bouton on, quoi, et qui bat comme le cœur d'Odyssée de Kubrick. Quand le bâtiment vit, ça se voit et son tempo est marqué, c'est normal.
Ça ne fait
c'est
pas que s'entendre, ça peut se voir.
C'est aussi un métronome, hein, donc on marque le rythme.
Donc c'est
donc
voulu,
c'était important, voilà. Et c'était voulu, et là, voilà. C'était
et
vraiment...
truc super drôle aussi, c'est qu'en créant la typo très pattern, on va dire, comme sur un
modulaire. Ouais.
Modulaire, mais comme sur un logiciel de musique où on met des patterns, une boîte à rythme.
Ouais. Ligne et colonne. Ouais.
En créant ça, on s'est rendu compte qu'on faisait même référence aux premières partitions des orgues de Barbarie.
Ouais.
On était pile dans le sujet de musique actuelle, musique.
Quand le papier.
La musique de rue aussi. Hein.
Quand
la
musique actuelle
était mécanique et.
Puis la musique actuelle aujourd'hui se nourrit énormément de choses anciennes.
Du passé, quand le papier fait musique, quoi. Donc c'est intéressant.
Digital, c'était digital.
Et puis c'était les premiers systèmes de programmation d'ailleurs qui ensuite ont été réutilisés dans les métiers jacquard pour faire des tissus à motifs.
Ouais. Exactement.
Voilà.
Exactement.
Et ça, c'est de tête, messieurs.
Voilà, c'est gratuit.
Quel est de vous deux, quel est franchement votre studio de fondeur préféré, celui à qui vous avez envie de dire « Ouah, respect dans ta typeface
». Moi, c'est un bordelais. Mmh. Qui s'appelle, enfin qui se surnomme Jack Usine.
Okay.
Et il a fondé une fonderie, enfin voilà, de police qui s'appelle Smeltree.net.
D'accord.
Avec des polices de caractère très très bizarre. Donc ça voilà, c'est un travail que je respecte.
D'accord, Émile. Benoît.
Alors moi c'est toute l'école du Bauhaus quoi. Pour moi. La typographie bien utilisée avec des textes, avec une époque et toutes ces choses-là. Quoi. Ouais,
c'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure justement d'un Français qui s'était énormément inspiré du Bauhaus, Étienne Robial. Je te montrerai une police qu'il a créée pour la cité de la bande dessinée Angoulême. Elle est illisible.
Oui,
il s'est bien planté.
Ah, mais voilà, mais ça fonctionne parce que ça interroge. Quoi. Ça laisse pas
peur. Ah non, là, c'est même pas la peine.
Massacre, cool, donne.
Ça fait un peu mal. Je vois pas le rapport avec la BD des fois.
Du tropical. Style. On y vient.
Et
ma vie, mon œuvre.
Et quitte juste comme ça. Question. Mais alors franchement, c'est vrai que celle-là, je me la poserai même pas. C'est dire si elle est.
La pose pas. Écoute.
Quand vous ouvrez votre logiciel de traitement de texte et que vous choisissez une police, combien il y a de polices en fait que vous avez installées sur votre ordi? C'est en deux chiffres, trois chiffres, quatre chiffres?
Trois chiffres, oui, facile. Quatre chiffres, il y a moyen. Ouais.
Si, il y a moyen.
Ouais. Ouais.
Et des fois, ça vous arrive de faire le ménage?
Jamais.
Jamais. Jamais. Ça prend pas trop de place sur un ordi, ça va. C'est pas des plombs qui ont été.
Quand en fait, on a parlé tout à l'heure, c'est vrai, j'avais parlé un petit peu du web, quand on a commencé à pouvoir incorporer une typographie sans avoir à l'installer d'abord sur son ordinateur, donc à charger dynamiquement une police de caractère. Vous, quelle a été justement l'émotion là-dessus sur le travail ? Est-ce que soit ça a été des trucs qui étaient complètement à côté de la plaque ou des polices qui finalement se justifiaient vraiment ? En fait, c'est récent, c'était il y a 4-5 ans.
Donc comment on a vu l'évolution typographique ?
Oui. Sur le web, quoi, ce qu'on utilise.
Ouais, sur le web, et même avant, j'avais connu tout petit le Minitel. Et je m'amusais déjà en fait à composer, mais je ne savais pas m'en servir, mais à faire des frises de motifs,
en
de slash.
En stum 1B, eh ben fonction voilà. C, E et escape.
Ah, j'en étais pas là, je devais avoir 4-5 ans. Quoi. Et en fait, cette évolution de la typo sur écran, la façon dont elle a grandi en définition, ça on l'a complètement aperçu. Quoi. Enfin,
Ouais, mais c'est
toi, Ben, t'es né avant les ordis, donc t'as bien connu ça.
Bam.
Ouais, tu me parles Minitel, riposte, quoi. De si, je t'aurais pas eu là, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi. Pour moi, c'est,
t'avais pas le même âge, voilà.
Ouais. Je l'ai tapé, le 3615, là. Mais ouais, mais c'est une évolution continue, quoi. Donc, en fait, ouais. C'est des douces révolutions.
Ça a été, quand on est passé justement des polices web safe à...
Ouais. Mais moi j'ai connu des galères sur Express, quoi, avec des livres de police, tu pleures. Quoi.
Quark Express, on explique, c'est l'un des premiers logiciels de PAO, entre guillemets, professionnel, accessible. Hein.
L'ancêtre d'InDesign.
Sur l'édition, quoi. Donc c'est vraiment sur la mise en page, la composition. Mais c'était l'enfer sur Terre, donc les polices c'était vraiment compliqué, quoi. Quand tu avais une erreur police, quoi, tu le payais cher, et tu l'as cherché longtemps, quoi. Ouais, non, moi franchement, je chopais des trucs, je devenais taré. Hein. Je devenais taré des nuits entières, quoi.
C'est peut-être là où tu as arrêté de faire l'économie des bons à tirer, et t'as bien regardé.
Déjà, c'est déjà une école, quoi.
On explique un peu. Hein,
ouais. Parce que
l'imprimeur, quand on fait une commande de 10 000 planches,
c'est un vocabulaire particulier.
Ouais, ça peut coûter très très cher, quoi. L'erreur, quoi, ce qu'on appelle la coquille, qui vient donc d'une erreur.
La couille Saint-Jacques.
Voilà, de la couille Saint-Jacques, quoi. Elle est bien vieille, quoi, celle-là. Mais la coquille, ouais, c'est vraiment, par contre, si on veut parler typographie, si on veut parler impression, c'est vraiment la hantise, quoi. Donc, il y a toujours.
Et c'est jamais notre faute. Hein.
Voilà, il y a toujours des coquilles. Ça, c'est sûr. Donc après, il faut les trouver. Mais ça, ouais, si on veut parler de la lettre, quoi, qui peut poser problème, franchement, à 10 000 ou à 20 000 exemplaires, d'avoir couille au lieu de coquille, ça le fait pas. Ouais, ça le fait pas. Moi, le mieux, c'est que pour un commissaire priseur, il y avait une pendule du 17e qui avait fini.
Bien, celle-là.
Pendule du 17e, quoi. Et en oubliant le c'était une pendue. Pour commissaire priseur, c'est galère.
J'achète.
On va en parler justement. En tout cas, merci beaucoup.